guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, on le disait en début d'émission, il a fait très froid cette semaine et de mon côté, je mettais à l'essai un véhicule qu'on pourrait qualifier de frileux, j'ai l'impression, le Mazda MX-30. Premier véhicule électrique pour Mazda et ce qui décevait initialement dès son arrivée, c'est l'autonomie qui est jugée trop faible, même dans des conditions jugées optimales. Donc, on est à 161 km d'autonomie. C'est ce qui est annoncé par le constructeur. Tu me disais avant l'émission l'avoir mis à l'essai, toi, cet automne et avoir parcouru environ 140 km d'autonomie. Alors
Ça, c'est si tu fais pas d'autoroute.
Oui, voilà. Moi, je l'ai mis à l'essai alors qu'il faisait un peu froid cette semaine, donc aux alentours de moins 10, moins 15, des fois moins 20.
As-tu fait 100?
Oui, j'ai fait 100. J'ai fait 110,5 km précisément avec une charge complète. On m'affichait entre 121 et 125 km une fois que la batterie était chargée complètement. Donc mais j'ai fait 110 et j'ai fait 110 en étant bon joueur avec le MX-30 en roulant disons raisonnablement,
ouais.
En ayant adapté parce que sinon j'aurais jamais fait ça.
T'avais-tu une tuque de mi-temps?
J'avais pas de tuque, j'avais pas de mi-temps.
T'avais du chauffage?
Mis du chauffage, il faisait moins... Mais ce que je veux dire, j'ai pas roulé là, à 119 sur l'autoroute,
Non, mais moi, c'est parce que on voit ça là, dans les températures très
bien
froides.
Bien sûr.
Ce que j'appelle les électrifieux, là, ceux qui n'ont pas de problème à rendre la conduite automobile dangereuse et inconfortable pour sauver 3 km.
Donc, à 85 dans la voie de droite.
Avec
une
Nissan Leaf, les vitres givrées.
Givrées, parce que, il y a de l'humidité à l'intérieur, il fait froid dehors.
Ouais, c'est ça.
Mais non, j'ai été bon joueur avec le MX-30 et je l'avoue, mais sinon, ça n'a pas de bon sens d'arriver avec un tel véhicule en 2022 aussi peu d'autonomie.
C'est constatation qu'on a faite de façon unanime milieu.
Là, en plein hiver, c'est encore un peu plus frappant.
Mais c'est du masochisme, pour toi, d'avoir... De vouloir... rouler ça à moins 20, là.
Je me suis fait souffrance cette semaine. Mais sinon, effectivement, c'est cute comme véhicule, là, tu sais, si on essaie de fouiller. Puis
quand tu regardes la facture, c'est pas mal moins cute.
C'est pas mal moins cute, puis bon... C'est joli, mais c'est pas pratique, là. Les portes suicident. L'accès à l'arrière est difficile. Tu sais, il y a pas de place. C'est joli et c'est à peu près tout. Facture qui est très salée et je comprends pas pourquoi un consommateur en 2022 se procurerait ça. Bon, je le sais, en ce moment, on livre pas de Bolt, là, mais quand on va se remettre à en livrer, ben, acheter une Bolt puis arrêter ça là. Il y a d'autres produits aussi dans ce format-là,
conduisais
la semaine passée le Kia Niro EV. On est dans le même format, tout ce que tu veux, la même gamme de prix, mais t'as une autonomie décente. Ben voilà, on se pose même pas la question. Je ne comprends pas que quelqu'un puisse acheter ça.
Même une Soul ou une Ioniq qui n'ont pas des autonomies, on est à 260 km.
Ben c'est toujours plus.
C'est toujours bien 100 km de plus annoncé que ce que Mazda prétend. Et en réalité, l'écart est encore plus grand que ça parce que Mazda n'a pas toute la technologie.
Ah non, non.
Bref. Puis l'année prochaine, on s'en vient avec un véhicule avec un générateur, un moteur rotatif en guise de générateur pour prolonger l'autonomie, mais on va avoir une batterie plus petite.
Oui, donc je ne comprends absolument rien. Et anecdote au passage, cette voiture-là a fait jaser là, dans mon entourage cette semaine. Et quand je parlais de l'autonomie, on me disait « Oui, mais après ça, tu as le moteur à essence qui embarque. » Non, c'est un 100% électrique.
Oui, c'est un ancre à bateau. Là.
Il n'y a pas de une fois que tu as épuisé la batterie, c'est fini. Là. Ouais. Ce n'est pas un hybride rechargeable. Alors, je pense que tout le grand public n'avait peut-être pas nécessairement saisi que
Oui, parce que tu as pris une photo, il restait un kilomètre au compteur.
Oui, oui.
Puis...
oui, voilà. Et là, on m'a dit, ah, mais après, t'es correct. Tu sais, t'as le moteur à essence de pointe. Non, non, c'est pas une Volt, c'est pas une Prius Prime. Là. C'est fini, rendu là. Là. Alors, bref, c'est vraiment pas le véhicule électrique que j'achèterais.
C'est vraiment pas le véhicule de l'année, contrairement au mien.
Ah, oui, voilà. Hein? Le roi de la transition a encore sévi. Tu as conduit cette semaine la Volkswagen Golf R.
Oui, en fait, voiture que je présentais même ce matin à Salut Bonjour. Écoute, 45 995 $ plus les frais de transport, préparation, puis là, bien évidemment, hein, c'est cher pour une Golf. Oublie le nom, là. Oublie le nom. Stationne ça à côté d'une Mercedes AMG A35 4MATIC. Qui, à équipement équivalent, va te coûter facilement 15 000 $ de plus. Et tu vas vite réaliser que même à prix égal, tu prendrais la Golf R.
Ouais. C'est cher quand on pense à la Golf de base à 20 quelques mille, là, mais ça n'a rien à voir avec ça. Bon, la Golf de base qu'on a pas.
Je vais vous dire que, bon, on a éliminé la Golf régulière, on le sait. Les Américains n'en voulaient pas. Les Canadiens, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Ça explique tout. Reste la GTI, la Golf R. J'ai conduit la GTI avec les déboires que tu connais. J'avais eu un problème de moteur avec le véhicule, mais causé par un choc que la voiture avait eu, pas par un vice de conception. Et ensuite, j'ai conduit la Golf R. Et faut que je te dise que la GTI que j'ai conduit, c'était le modèle performance le plus équipé qui coûtait 42 000 $.
Qui n'est pas nécessairement le plus intéressant, là.
Non. Non. Moi, je choisirais une version Autobahn à 35 000 à peu près, puis c'est correct. Mais la version que j'avais, 42 000 $ versus la Golf R que j'avais à 48 000. Il y a 6 000 d'écart entre les deux. OK? Et l'équipement est carrément équivalent, à l'exception...
Mais tu as les quatre roues motrices et une puissance nettement supérieure.
Bien, attention. D'abord, tu as un look différent que je préfère personnellement parce que le nouveau pare-choc de la GTI puis les cinq fog lights...
C'est beaucoup plus sobre, là, ouais, comme, voilà. Comme
les jupes sont différentes. Les jupes sont différentes. Les pare-chocs sont différents. Évidemment, tout l'échappement. Il y a un aileron supplémentaire sur la Golf R. Et ça, c'est assez cocasse parce que il y a un vice de conception là, c'est qu'on a mis un deuxième aileron par-dessus l'aileron qui est comme dessiné à même la voiture. Ça ajoute du poids au haillon, ce qui fait que les cylindres ou les supports de haillon...
Ils commencent à trouver que c'est pesant, là.
Ils fournissent pas. Okay. Ça tient à peine versus une GTI où il n'y a pas de problème. Fait que okay. Ça, c'est très drôle. Mais alors ça, il faudra corriger ça. Mais il y a 6 000 $ d'écart entre ces deux voitures-là, grosso modo. Tu obtiens des quatre roues motrices. Tu obtiens un moteur de 315 chevaux au lieu de 241. Alors, pas besoin de te dire que c'est pas la même expérience. Et le système quatre roues motrices de la bagnole a énormément évolué par rapport à l'ancienne. Ce qui fait que tu as un vecteur de couple sur l'essieu arrière avec un double embrayage. Tu peux acheminer jusqu'à 50 % du couple sur l'essieu arrière, mais après ça, le 50 % du couple arrière peut se distribuer à hauteur de 100 % sur une ou l'autre des deux roues. Ce qui fait que là, tu peux t'amuser, lâcher ton fou. Tu as 6 modes de conduite, dont un mode qu'on appelle Nürburgring, où on garde la suspension assez molle, mais on ne restreint plus l'échappement et toute
la sonorité est au rendez-vous.
Ah,
là.
Ça n'a pas de bon sens, là. C'est deux mondes. Bon, évidemment, de la gestion de la puissance moteur, rendement de la transmission.
Sont où tes clés?
C'est ça.
OK.
C'est ça. Alors, ça, c'est un mode-là, est assez le fun, mais celui qui est le plus radical, c'est le mode drift. Où justement...
Là, on donne tout à l'arrière, le plus qu'on peut à l'arrière.
Bien, c'est qu'en plus, parce qu'on a un système à double embrayage à l'arrière, on réussit à faire tourner les roues arrière plus vite que les roues avant. Donc, la voiture est en dérapage contrôlé, je ne veux pas dire quasi constamment, mais beaucoup plus facilement. Puis là, bien, écoute, c'est du pur bonheur.
Tu n'as pas besoin d'être un grand pilote pour avoir du fun puis épater la galerie.
Mais la beauté de la Golf R, c'est que tu as des performances fantastique, c'est 4,8 secondes, 4,7 secondes, le 0-100 km/h avec le mode départ canon, avec la boîte DSG, tu vas perdre 0,1 seconde si tu prends la boîte manuelle, parce que oui, il y a une boîte manuelle de disponible.
C'est une vraie voiture de puriste.
C'est ça. Tu peux autant avoir du plaisir au volant avec une bagnole véritablement sportive que si tu mets ça en mode confort, elle est confortable sur la route pour faire 1000 km sans te fatiguer. Bon, évidemment, c'est des routes 19 pouces avec des pneus dont les flancs sont assez minces. Donc, l'hiver, ça sera à vérifier si on peut réduire la taille des roues d'un pouce, mais je pense que ça sera un avantage, là. Mais sinon, c'est une voiture très confortable, stable, une routière, une vraie routière, comme Volkswagen est capable de le faire, qui offre tout le luxe, le confort dont tu as besoin. Puis c'est quand même une voiture pratique, tu sais. Tu peux embarquer 4 personnes en tout confort avec un volume cargo raisonnable. Puis
est-ce qu'il y a un peu moins de volume cargo que dans la GTI, étant donné qu'elle est 4 roues motrices?
Forcément, mais l'écart est moindre qu'avec l'ancienne génération.
OK, donc il y a un gain intéressant de ce côté-là.
Puis, en conduisant cette voiture-là, je me suis rappelé qu'il y a 10 ans, on lançait la première Golf R sur notre marché, que j'avais conduit, qui avait 256 chevaux, qui avait un système Aldex qui était assez performant, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on a présentement. On en avait vendu 500 au Canada en 2012, 250 en 2013. Ce sont des voitures très rares aujourd'hui. C'était pratiquement le même prix que ce qu'on vend la Golf R aujourd'hui.
Considérant que le prix des voitures a globalement monté, bon, surtout dans les deux dernières années, et qu'en plus, technologiquement, elle en offre beaucoup plus, c'est intéressant.
Alors ça, c'est l'autre point qui est le fun, c'est que la Golf R vendue ici au Canada se vend pratiquement le même prix dollar pour dollar que du côté des États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est quelque chose comme prix d'entrée à 43 995 US, puis on la paye 45 995 canadiens.
Alors que généralement, l'écart là est plus grand.
Beaucoup plus grand. Oui. Est beaucoup plus grand. Alors on a une bonne aubaine avec la GTI, avec la Golf R. Puis pour moi, c'est une voiture plus intéressante que la GTI. Évidemment, si vous regardez une GTI de base à 32 000, ben là, il y a un écart considérable. Mais si vous regardez une GTI assez équipé, là, l'écart se réduit.
Faire le saut peut devenir intéressant.
Ça devient intéressant. Bon, évidemment, la disponibilité est limitée. Vous allez attendre 7, 8, 10 mois, peut-être un an pour une Golf R si vous décidez d'aller placer un dépôt aujourd'hui. 3 couleurs de disponibles. Blanc, noir et le lapis bleu qui est la couleur traditionnelle.
On peut imaginer que beaucoup vont choisir le bleu d'ailleurs.
Oui, bien, on peut aussi imaginer que dès l'année prochaine, on va amener d'autres couleurs. Là. Je pense que là, c'est le lancement, puis on s'est gardé des petites surprises pour 2023. Okay. Là. Ça, je suis persuadé de ça. Mais en demeure pour moi, c'est une bagnole intéressante. Et oui, en terminant, le toit ouvrant est disponible désormais.
C'est la seule option.
C'est la seule option à part la transmission. Et pourquoi on ne l'avait pas, le toit ouvrant, sur l'ancienne génération de la Golf R?
C'est une bonne question, mais moi, je ne suis, contrairement à toi, absolument pas un adepte de toit ouvrant. Jamais je choisirais cette option-là, mais je t'écoute quand même.
Ben, écoute, on avait, pour commercialiser la Golf R de précédente génération sur le marché nord-américain, on avait homologué la voiture en utilisant une e-Golf qui n'a jamais eu droit à un toit ouvrant ni à un accoudoir central rabattable. Parce qu'on avait des batteries sous l'accoudoir. Alors, c'est pour ça que la Golf R de précédente génération avait un accoudoir fixe et n'avait pas d'option de toit ouvrant. Stupide comme
Merci,
ça.
Merci, Transport Canada.
C'est ça, exact. T'as tout compris.